Quatrième opus et avant-dernier extrait du livre de Victor de la Rodière, Les Affamés de Saint-Denis, nous raconte la vie quotidienne et les événements qui ont marqué notre île durant la Deuxième Guerre mondiale.
Les jambes mouillées par le ressac et les chaussures remplies d'eau, le nouveau chef de la colonie est aussitôt conduit à pied à sa résidence par le commandant Baraquin. En traversant la place du gouvernement, le représentant de la France libre est salué, comme il ne l'a jamais été de sa vie, par le gazouillement mélodieux de milliers d'oiseaux libres et heureux, nichés dans les rameaux des vieux arbres de la place. Pour le gouverneur, c'est un heureux présage. Déjà charmé par la splendeur de cette île qui se découvre à peine sous le jour qui se lève, il est maintenant captivé, envoûté, ensorcelé par l'accueil de cette terre bénie sur laquelle il va vivre les plus beaux jours de sa carrière et de sa vie. Arrivé au gouvernement, Jean-Charles André Capagori commence d'abord par confisquer toutes les clés de tous les meubles, puis convoque le secrétaire général, M. Jean Rivière. En attendant l'arrivée de ce haut fonctionnaire, le gouverneur, avec ses poches pleines de clés, se rend au portail où se tiennent deux fusiliers marins. À quelques pas, à l'extérieur de la grille de clôture de la cour, une vingtaine de personnes, des curieux qui tentent de voir ce qui se passe à l'intérieur. Il est environ 5h45 et on peut déjà bien voir et reconnaître ce qu'on voit. C'est alors que le nouveau gouverneur adresse à ces quelques personnes les paroles suivantes. « Françaises et Français de la Réunion, chargés par le général de Gaulle de venir rallier la Réunion à la France combattante, je suis venu avec les marins des forces françaises et vous avez pu voir que le premier contact avec les Réunionnais ont été un contact amical. Nous devons marcher la main dans la main. Nous avons besoin de la collaboration de tous, de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés, de toutes les ressources de l'île. Il est bien entendu que le général de Gaulle, qui défend la liberté, n'empêchera pas les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Mais, comme nous sommes en guerre, que ceux qui ont des opinions pouvant amoindrir notre résistance se taisent. Je vous demanderai de chasser de vos cœurs la haine pour tous ceux qui ne pensent plus comme vous. Nous sommes tous des Français. Nous sommes venus en français, en amis, chez des Français. Nous avons été accueillis en français par des Français. Retenez donc ceci. Soyez sans haine pour quiconque et n'entretenez pas de questions de parti tendant à agiter l'opinion. Chacun est libre de penser. Je ne brimerai jamais et ne considérerai jamais la population de l'île coupable au préalable d'aucun reproche. Le ralliement de l'Empire s'est fait et la Réunion, française depuis 3 siècles, ne pouvait être tenue en dehors de ce mouvement. Ainsi, l'amiral Darlan lui-même, qui, après nous avoir traités de rebelles, a maintenant compris et s'est ressaisi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, un ennemi unique, le Bosch. Nous devons nous unir plus que jamais pour lutter contre lui. Nous touchons la victoire du doigt. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais nous la touchons du doigt. La chance est plus que jamais de notre côté. La seule chose qui doit compter pour nous à l'heure actuelle, c'est le salut de la France. » Fin de citation. Le résultat de la deuxième fusée lancée du Barachois par les fusiliers marins pour annoncer la prise de possession de la colonie par le gouverneur ne s'est pas fait attendre. Comme c'est un samedi, et de plus un samedi d'une époque de disette, les créoles de Saint-Denis sont de bonne heure dans les rues à la recherche de quelque chose à manger. Ceux qui ont vu la lueur dans le ciel annoncent aux autres « Zanglé l'a débarqué !» À ces mots, toutes les maisons, toutes les cases, tous les taudis se vident et toute cette population se dirige à grands pas vers le bar à choix. Le journal Le Progrès du 30 novembre 1942 écrit « En un clin d'œil, la place du gouvernement, la place Roland-Garros et ses abords furent envahis par une foule enthousiaste qui grossissait de minute en minute. Et sur tous les visages se lisait cette expression de satisfaction profonde, de joie intense. On se coudoyait, on se frôlait, on se pressait, animé d'un même sentiment, d'un même désir. Jamais auparavant, peut-être, cette place du bar à choix n'aura été ainsi le théâtre d'un tel spectacle. Un spectacle aussi grandiose et aussi émouvant en sa simplicité. Jamais peut-être ne s'y est déroulée une telle manifestation patriotique, et cela sans commande, sans mot d'ordre, sans apparat, mais en toute spontanéité, en toute liberté. Jamais peut-être on n'aura vu une telle communion de pensées, une telle fusion d'âmes et de cœurs. La nature elle-même, toute baignée de lumière, semblait s'associer à notre allégresse et partager notre fierté. Mais l'enthousiasme de la foule n'était pas encore à son comble et il ne devait toutefois pas tarder à l'être. Car de la foule de plus en plus dense, comme mue dans un commun élan, allait bientôt s'élever le plus vibrant des Hosanna. Il lui tardait de pouvoir crier son patriotisme fervent, indéfectible, et exprimer son sentiment si longtemps refoulé. Son sentiment de demeurer intégralement français et de conserver intacte sa foi en la victoire finale. On sentait plus que jamais que l'heure de la contrainte et du silence imposé avait passé. Notre longue attente avait pris fin. Il ne nous restait maintenant qu'à espérer et à reprendre confiance. » Fin de citation. À 8 heures, le capitaine Hector Patureau adresse au micro de Radio Saint-Denis le premier message de liberté aux populations de l'île, tandis qu'en ville de Saint-Denis, un tract rappelant l'appel du 18 juin est affiché sur les édifices publics. « À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but. Mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France, le général de Gaulle. Pendant ce temps, un ultimatum est envoyé au gouverneur Aubert, à Elbourg, lui demandant de se rendre sans délai. Mais le gouverneur Aubert ne connaît pas de Gaulle. Il est sous l'autorité du maréchal Pétain et doit d'abord le tenir au courant de la situation. En attendant, il résiste. Tout au moins, il fait semblant de le faire. À 9 heures, le drapeau tricolore à la croix de Lorraine et hissée sur tous les édifices publics de la capitale en fête. Dans la rue de la Victoire, à quelques pas du monument, dans l'atelier d'un artisan nommé Rosamel, un vieux phonographe lance par la porte grande ouverte une Marseillaise enregistrée sur disque 78 tours, tournant à 90. Dans la rue du Grand Chemin, devant le restaurant Le Flaubert, tenu par M. Mackay, une vingtaine de personnes écoutent un poste de TSF diffusé à toute puissance une émission de Radio Brazzaville annonçant la libération de la Réunion. À l'autre bout de cette rue du Grand Chemin, un autre rassemblement s'est formé devant une vitrine du journal La Démocratie. Tout le monde veut voir la photo du général de Gaulle exposée dans un cadre orné d'un ruban tricolore. À 200 mètres plus bas, devant le bistrot tenu par M. William Raoul, un honorable taximan, M. Tillock, entonne un chant du départ qui reste malheureusement retenu par des cordes vocales trop tendues sous l'effet de l'émotion. À quelques pas de là, à la hauteur de la quincaillerie Ponin-Ballon, des rires, des cris et des chants fusent d'un groupe en gaieté. Soudain, un homme plus jovial que les autres se détache du groupe et déchire ses tickets d'alimentation pour se faire des confettis qu'il lance joyeusement sur les passants. Pour lui, la libération de la Réunion, c'est aussi la fin de la guerre et de la famine. La libération du port. Ce matin-là, comme chaque jour depuis que le monde est en guerre, la ville du port se réveille sans animation apparente. D'ailleurs, les portois ont déjà pris l'habitude de vivre près d'un port sans bateau. Les quais aussi sont vides et les dockers chez eux, en chômage technique, bien que les docks soient remplis de sucre. La seule forme de vie encore visible sur les quais déserts, c'est un douanier très vigilant qui n'arrête pas de faire le va-et-vient le long des docks fermés à double tour. En sommeil le long d'un quai du bassin est, tout près d'une vedette blanche du CPR, chemin de fer et port de la Réunion, un vieux remorqueur, l'amiral Bouvet, se mire dans les eaux vertes du bassin. C'est d'ailleurs tout ce qu'il peut faire depuis que le chenal du port est obstrué par une drague et trois chalands coulés sur décision des autorités compétentes de la colonie. Ce matin-là, donc, comme depuis quelque temps, la ville du port se réveille paisible et calme. Seul le quartier de la gare ferroviaire connaît l'animation habituelle à l'arrivée et au départ des trains de voyageurs venant de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Or, ce matin du 28 novembre 1942, l'animation dans le secteur de la gare est de beaucoup plus intense que d'ordinaire. Non seulement parce que c'est un samedi, mais précisément parce que, contrairement aux habitudes, ce matin-là, le train de voyageurs venant de Saint-Denis n'est pas venu. Au début, seul le chef de gare est vaguement au courant des événements. Mais bientôt, tous les cheminots se chuchotent la nouvelle. Cette nouvelle que l'on attendait depuis quelque temps et que l'on s'apprêtait à entendre. Aujourd'hui, ce sont les cheminots qui ont la joie de l'annoncer. Bientôt, tout le monde le sait et toute la ville en parle. À Saint-Denis, Anglais l'a débarqué. La nouvelle s'est répandue très vite. Et très vite, des petits groupes d'hommes, en majorité des dockers et des cheminots, se forment devant les boutiques de l'avenue de la gare. Comme toujours, dans chaque groupe, il y a un orateur qui semble mieux connaître les affaires qui se passent à Saint-Denis, et c'est lui qui annonce aux autres comment les Anglais ont pris la capitale. Devant la salle d'attente de la gare, il y a aussi quelques hommes en conférence. Trois d'entre eux sont bien connus des portois. L'un, c'est un employé du CPR. Le deuxième est un cheminot lui aussi. Et le troisième, celui qui semble donner les ordres et qui était attentivement écouté, c'est le marchand de manioc bien connu que les Portois appellent amicalement Tiléon et qui, en réalité, se nomme Léon de l'Épervenche. À 35 ans, Léon de l'Épervenche a déjà connu des hauts et des bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Employé au chemin de fer et port de La Réunion, il fonde un syndicat de cheminots de La Réunion dans le but d'apporter un peu plus de bien-être chez ses camarades, les cheminots. Parfois même, pour faire aboutir leurs revendications, il doit recourir à des menaces de grève. Il ignore peut-être que celui qui combat l'injustice s'expose à de graves ennuis. Finalement, il se fait licencier. D'ailleurs, c'est la guerre et le gouvernement doit faire des économies. Depuis que la grande famine sévit à La Réunion, c'est lui, Léon de l'Épervenche, qui a pris la responsabilité de ravitailler en manioc la ville du port. C'est une tâche très difficile qu'il s'est imposée, mais il parvient quand même à faire face aux besoins de la population qui lui donne en échange sa reconnaissance. C'est de ce contact humain avec cette population affamée qu'est née cette popularité qui fera de lui, 3 ans plus tard, le premier député communiste de La Réunion. C'est pourquoi, en ce matin du 28 novembre 1942, ses camarades l'écoutent attentivement et se mettent volontairement à sa disposition lorsqu'il annonce « Camarades, nous allons libérer le port en commençant par l'hôtel de ville. » À ces mots, un tonnerre d'applaudissements éclate dans l'assistance composée de nombreux badauds déjà agités par le vent de l'aventure. Comme en Amérique au XIXe siècle, quelques fusils sont rapidement distribués à des camarades éprouvés, capables de jouer aux justiciers, comme au temps de la conquête du Far West. Peu après, l'hôtel de ville est assiégé, et Léon de l'Épervenche, qui conduit ce commando de la terreur, s'adresse au président de la délégation spéciale, M. Coaquet, faisant fonction de maire, en lui disant « Remettez-moi d'urgence votre démission, sinon vous pourriez devenir la première victime de cette journée. » Quelques instants plus tard, le maire capitulait et se constituait prisonnier, tandis que Petit Léon prenait possession de la maison du peuple. La prise du bureau des PTT, puis celle de la gare ferroviaire, se font de façon analogue, sans effusion de sang, mais sous la menace des fusils de quelques partisans. Après avoir placé ses postes clés sous bonne garde, Léon de l'Épervenche s'empare d'une vedette du CPR et se rend à bord du Léopard, en rade au large du port, où il fait part au commandant Évenou des événements matinaux et de l'immense désir des Portois de recevoir les libérateurs envoyés par le général de Gaulle. Mais la confusion qui règne dans cette ville en effervescence n'arrange pas les choses. Il est près de 11 heures lorsque l'officier chargé de la défense du port et de la protection de la population, le lieutenant Émile Hugo, est informé par la gendarmerie que quelques individus à l'intention douteuse, armés de fusils, se sont emparés de l'hôtel de ville et du maire. Le lieutenant Hugo, dont le QG se trouve dans un bâtiment du quai ouest du port, se dirige aussitôt vers la ville à la tête de ses hommes qui viennent de recevoir la consigne formelle de ne tirer sous aucun prétexte. La voie ferrée reliant la gare au quai traverse la rue à la hauteur du bureau des PTT. Pour arriver à l'hôtel de ville, le lieutenant Hugo doit obligatoirement franchir cette voie ferrée. Or, à cet endroit précis, un fourgon du CPR est renversé en travers de la rue, obstruant ainsi le passage aux militaires. Derrière ce fourgon renversé, il y a quelques hommes, et chaque homme est armé d'un fusil. Ils font le guet. Certains semblent nerveux et très excités. Excités plus par le port d'une arme à feu que par l'illusion d'une héroïque aventure. Le lieutenant Hugo doit maintenant faire face à deux fronts. L'un vers la mer, l'autre dans la ville. À cette époque, à La Réunion, les militaires ne sont pas encore comme de nos jours, équipés de moyens de communication aussi sophistiqués. Ils sont reliés entre eux par une ligne téléphonique qui n'a de spécial que le nom, puisqu'elle suit le même itinéraire que le réseau commercial ordinaire. Or, ce jour-là, ce réseau est coupé depuis Saint-Denis et la capitale isolée du reste de l'île. Le matin, on avait annoncé un débarquement anglais sur les côtes de Saint-Denis. Or, il n'était nullement question de livrer la Réunion aux Anglais qui s'étaient déjà mal comportés envers De Gaulle le 5 mai 1942 en attaquant la grande base française du nord de Madagascar, Diego Suarez, avec d'importantes forces navales et aériennes. Deux jours plus tard, le 7, ils l'avaient occupé. Quatre mois après, ils attaquaient de nouveau Madagascar et occupaient complètement l'île le 9 septembre, infligeant de lourdes pertes aux Français. Tout en avançant prudemment, le lieutenant Hugo se souvient également du commandant de l'intelligence service qui avait, au mois de mars dernier, séjourné incognito sur l'île sous les ordres d'un officier étranger, lequel d'ailleurs ne s'était pas comporté très correctement envers une île sœur qui pourtant menait le même combat. Il devait donc se méfier de tout et s'attendre au pire. Au port, à ce moment-là, privé de toute communication avec le reste de l'île, c'est la confusion totale. C'est donc dans cette atmosphère de doute, d'incertitude et d'insécurité que le lieutenant Hugo, à la tête de ses hommes, marche vers l'obstacle qui lui barre la route, tout en cherchant du regard la possibilité de le contourner sans créer d'incident. Son expérience le rend extrêmement prudent. Derrière lui, ses hommes avancent pas à pas sur ses pas, vigilants, prudents eux aussi. Ils savent que leur mission est de protéger les Français et non de les abattre. Ils savent aussi que ces hommes armés qui leur barrent la route peuvent à tout moment devenir dangereux. C'est pourquoi ils se comportent exactement comme l'ombre de leur chef. Soudain, une détonation déchire l'air surchauffé de la rue. Le lieutenant Hugo porte la main à son épaule gauche qu'un projectile vient de fracasser. L'officier se rend compte alors qu'il a déjà perdu l'usage de son bras gauche, devenu insensible. Les flots de sang qui se déversent de cette plaie béante sont aussitôt absorbés par le tissu épais de sa vareuse qui se colle à sa chair. Malgré l'atroce douleur qui le torture, l'officier français, suivi de ses hommes, poursuit sa marche et parvient jusqu'à la gare où il arrive épuisé, mais lucide. Des officiers de la France combattante, débarqués entre-temps, le conduiront aussitôt à bord du Léopard où il recevra les premiers soins. Pendant ce temps, en ville, la fusillade continue. Intrigué par le sifflement des balles, un brave cheminot, Maurice Audon, 33 ans, quitte la cour de la gare où il se trouve, fait un détour pour éviter les balles perdues et descend la rue Alexandre de la Serve avec l'intention de se diriger ensuite vers le quartier du port où se trouve la poste. C'est d'ailleurs à peu près de cette direction que viennent les bruits inquiétants des armes en furie. Il n'est pas le seul à se diriger vers cette zone dangereuse, mais il est en tête d'un groupe de curieux qui se dirigent dans cette direction. Parvenus à la croisée de la rue Évariste de Pargny, ils se mettent à scruter celle-ci du regard. Mais la rue lui paraît déserte. Personne en vue, si ce n'est un vieux chinois, affolé par le sifflement des projectiles et qui se bat avec la bascule de sa porte de boutique qu'il n'arrive plus à fermer dans sa précipitation. La balle qui siffle dans l'air frôle au passage les quelques fils téléphoniques tendus au-dessus du trottoir et les fait vibrer comme les cordes d'une guitare hawaïenne. Cette complainte emplit aussitôt les rues de son air triste, sorte de glas dédié à celui qui va mourir. Odon n'ira pas plus loin. Une balle l'atteint en plein crâne et il est déjà mort lorsque son corps tombe lourdement sur le trottoir, juste au-dessous de la ligne téléphonique qui vibre encore. C'est la deuxième victime de la journée. La première, Madame Rebella Julien, ayant été tuée dans sa maison le matin même par l'éclat d'un obus tiré par le Léopard sur la batterie du port avant sa reddition. Peu après ce nouveau drame, la ville passe entièrement sous le contrôle des fusiliers marins du commandant Richard Evenoux.